Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis un petit peu enroué. Merci pour cette vraiment très belle journée. Je crois que Pierre Signeux, qui était un assidu du comité numérique de la CPU, aurait été heureux d'assister à cette journée. Je pense que celles et ceux qui l'ont élaborée, Christine, Jean-François, au premier chef, vous pouvez en être fiers. Finalement, on a interrogé le numérique tout au long de la journée, mais la réflexion que je me faisais, c'était que c'était plutôt nous-mêmes qu'on interrogeait. Nos penchants, nos automatismes, nos valeurs aussi, la manière dont tous ensemble on fait société. C'était des questions fondamentales qui sont réinterrogées avec le numérique, mais finalement, c'est des questions millénaires. Et ça m'a rappelé un discours que j'avais prononcé pour une cérémonie honoris causa à l'université de Cergy il y a quelque temps, et notamment lorsque ce matin on parlait de conditions de citoyens, et j'avais axé mon discours autour de la notion de conditions d'enseignant-chercheur. On a une espèce de condition d'enseignant-chercheur, et du coup, j'en ai retrouvé deux paragraphes. C'est pas une manière de vous faire un discours à bon compte. Et puis, au moins, vous pourrez pas m'accuser de plagiat. Mais je vous en reprends deux paragraphes. L'exigence de la pensée qui met en perspective, qui interroge, qui ne cède pas justement à la facilité de la pensée, ne s'arrête pas à la frontière de notre métier. C'est aussi pour cela qu'on peut parler de conditions. On est enseignant-chercheur à chaque heure et tous les jours. Cette condition d'enseignant-chercheur déborde de notre seule profession parce que la méthodologie scientifique, le rapport au savoir, le rapport aux données, aux informations que l'on glane dans l'exercice de nos recherches, cette méthodologie, eh bien, ce rapport au savoir qui va au-delà du savoir, et peut-être finalement la chose la plus importante que l'on cherche à transmettre dans le cadre de nos enseignements. Cela devient donc une attitude qui ne saurait se contenir dans les limites de notre discipline. Et ça a fait écho à énormément de discussions que j'ai pu entendre ce matin. Le rapport au savoir et au-delà du savoir, la manière dont on se comporte par rapport à lui. Et donc finalement, le numérique vient juste exacerber notre mode de rapport au monde, il vient exacerber notre manière d'être au monde. On a parlé de la controverse, de la disputation, la dispute universitaire. Eh bien, tout ça c'est congénital à notre rapport au savoir, et on se rappelle que le web avait été initialement conçu par les chercheurs pour la controverse, l'échange, la disputation. Il me semblait que c'était par des chercheurs du CERN, mais pas eux uniquement, et ça nous avait été rappelé par Bernard Stiegler il n'y a pas longtemps au colloque de la CPU à Strasbourg. Alors, on a des nouveautés quand même, même si le numérique ne vient que nous réinterroger sur notre rapport au monde, il y a quand même des nouveautés. On a parlé de la facilité, de la mise à disposition immédiate. Et alors on se dit, si tout devient facile, Si tout est facile comme ça à portée de main, quelle est la société qu'on construit ? Bon, alors, tout n'est pas si facile que ça. Je vous rappelle, et vous le savez, que vivre n'est pas si facile. On a parlé de la valeur de l'effort. Juste derrière, on a pu voir quelques-uns, et peut-être d'autres si vous restez, une reconstruction en 3D des thermes de Caracalla à Rome. Et qu'est-ce qu'on voit ? On nous explique que les Romains venaient passer 2 heures à faire du sport, et en même temps, ils avaient dans le même lieu des conférences pour travailler l'esprit. Et on se rappelle que finalement, sur la valeur de l'effort, il y a le sport où les jeunes viennent suer et aller au-delà d'eux-mêmes, ne pas céder à la facilité pour atteindre des objectifs. On a parlé d'obésité informationnelle, ce qui peut mener à une addiction. Et puis on s'est dit aussi qu'on croit connaître le numérique parce que finalement, on le pratique tous les jours, comme Jourdain avec sa prose. C'était la différence entre l'épidigital et puis le métadigital, ou encore les compétences issues de la pratique et les connaissances structurées, compétences versus connaissances. Et là, du coup, on a du travail à faire. Autre nouveauté, on a parlé d'une société de la défiance généralisée. Certainement que c'est peut-être une nouveauté du 21e siècle, je ne sais pas. Et ce qui est mis à mal, c'est l'État, la presse et puis la science. Le web génère des communautés qui atteignent aujourd'hui, des communautés entre elles, qui atteignent une masse critique qu'elles n'atteignaient pas avant, et avant elles disparaissaient, aujourd'hui elles subsistent et elles peuvent générer des rapports au savoir totalement erronés. Éviter la manipulation, donc, c'est aussi la question de la souveraineté de la donnée. Et on a parlé de Sciences Po et de Google, on a parlé de messagerie, et on se rappelle, si Mehdi Garsala est encore dans le coin, mais je ne crois pas, qu'on a le sujet de la souveraineté de la donnée. Autre nouveauté aussi, l'horizontalité. Tout le monde donne son point de vue, le rapport à la détention au savoir, au savoir comme pouvoir, et puis un enjeu contraire qui est de libérer, d'échanger avec l'entrée dans le monde de l'open source. Et là, on a une vraie responsabilité à l'université, les chercheurs, les enseignants, une responsabilité de libérer le savoir. Et le constat est dur, on ne l'a pas fait. On nous a dit que, au contraire, les profs avaient inventé la propriété intellectuelle sur leurs cours, alors que ce qu'on enseigne en première année, franchement, c'est dans tous les bouquins. Et on nous a envoyé à la figure le fait que cette logique du partage des savoirs, eh bien, elle est faite par les amateurs avec des tutoriels sur Internet lorsque quelque chose arrive, lorsqu'il y a un nouveau produit, par exemple. Et donc on doit se poser la question, ermite ou prosélyte ? On garde le savoir pour nous ou on le diffuse ? Est-ce qu'on est le savant dans sa tour d'ivoire et on va financer sur tel concept qui n'a pas été extrêmement bien utilisé par tel confrère ? Ou bien est-ce qu'au risque de décorner certaines choses, eh bien, on se fait vulgarisateur ? Est-ce qu'on est un savant seul ou bien un savoir, ou est-ce qu'on partage un savoir ensemble ? Je pense que nous ne devons pas être les ermites de la pensée, nous ne devons pas être des ermites du savoir. Ne poussons pas poussons la rigueur scientifique dans nos travaux, mais ne poussons pas la rigueur scientifique jusqu'au vice de nous isoler. On peut avoir l'illusion qu'on sait mieux lorsqu'on sait seul, et on se rappelle Kant dans « Comment s'orienter dans la pensée ?» Alors, c'est pas compliqué, c'est la quatrième de couverture. Penserions-nous bien et penserions-nous beaucoup si nous ne pensions avec d'autres ? On doit donc penser ensemble et on doit le partager. Et c'est une question millénaire, mais le numérique vient nous réinterroger brutalement sur ces questions-là. Construire une littératie numérique, l'honnête homme du 21e siècle, à nouveau le passé ressurgit, là c'est le 18e, le lettré numérique, pourquoi pas plus simplement à parler d'alphabétisation numérique ? Est-ce que le mot, enfin, là je vous interroge, j'ai beaucoup entendu littératie, pour monsieur, madame, tout le monde, littératie c'est pas très facile à comprendre. Le numérique dans les classes, le numérique dans les classes primaires, dans les classes maternelles, ces moments si précieux où le cerveau se construit, on n'en fait pas encore beaucoup. Le numérique aujourd'hui dans les classes, comme au 19e et début 20e, on a introduit les sciences naturelles dans les classes, on s'est mis à parler des végétaux, expliquer comment ça fonctionnait, etc. C'est-à-dire que on s'est dit, on a des connaissances sur comment le monde fonctionne et on doit transmettre ces connaissances aux enfants. Eh bien, aujourd'hui, le numérique fait partie de notre monde et on doit transmettre ce monde, ces choses-là, comme début 20e, on a transmis les sciences naturelles et on l'a mis dans les programmes. Je me rappelle que à l'école primaire, j'ai appris à rédiger une enveloppe. Ça paraît tout bête de rédiger une enveloppe, mais il y a des codes. On met pas n'importe quoi n'importe où. Et les codes, ça s'apprend. J'ai appris aussi à lire une carte Michelin. Et c'était exactement très utile. On m'a donc appris à m'orienter et à intégrer des codes de la société. Aujourd'hui, on a entendu parler de GPS, de téléphones, de réseaux sociaux. Est-ce qu'à l'école, on nous apprend ces choses-là ? Henri Isaac disait « Dépasser la transcendance laïque, redescendre sur terre et puis pratiquer l'éthique de la discussion avec les enfants et pratiquer les exemples. » Ça peut très bien être le GPS ou autre chose. Alors voilà, on se dit tout ça entre nous. On a beaucoup parlé de la jeunesse et des enfants, entre nous, hein, on a à peu près tous des petits écartages, mais quand même on est à peu près tous pareils. On est en train de penser pour les jeunes et pour la génération future ou les enfants qu'on a. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, et si nous avions échoué ? Est-ce que nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous poser ces questions parce que nous avons échoué d'une certaine manière et que maintenant, on attend de la prochaine génération qu'elle trouve les solutions qu'on n'a pas encore trouvées ? Donc vous voyez, le numérique réinterroge de manière fondamentale notre manière d'être au monde, et c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant à l'aube de ce 21e siècle. Il réinterroge notre rapport à nous-mêmes, à soi, le rapport à la société, c'est-à-dire notre condition de citoyen, et notre rapport à la planète, c'est-à-dire notre rapport à l'espèce humaine, ces trois dimensions. Franchement, c'était une belle journée. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les intervenants, aux animateurs des tables rondes. Merci à Christine qui a porté à bout de bras de alpha jusqu'à oméga ou à Z, selon votre langue préférée, ce colloque. Merci à Jean-François d'avoir piloté le comité scientifique, le comité de pilotage de ce colloque. Merci au comité scientifique. Les présidents étaient nombreux à se passionner pour ce colloque, et en tout cas pour lui donner de la chair. Merci à tout le comité d'organisation, merci à celui de la CPU comme celui de l'Université de Caen, merci à Pierre Denise, merci Pierre de nous avoir accueillis ici, et puis encore une pensée appuyée et émue à Pierre Sineux, dont évidemment nous aurions beaucoup aimé qu'il puisse assister à cette journée. Je vous remercie.